Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, c'est le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Les prix du gaz seront gelés jusqu'au printemps. Jean Castex a annoncé ce soir un lissage des tarifs de l'énergie pour protéger le pouvoir d'achat. Explication dans un instant. Nicolas Sarkozy réagit vivement à sa condamnation à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Sur les réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État dénonce une injustice. Il promet d'aller jusqu'au bout. Il a fait appel de sa condamnation. Le pass sanitaire est maintenant obligatoire dès l'âge de 12 ans. Les adolescents doivent présenter leur QR code pour les sorties au ciné ou pour aller en salle de sport. Reportage à suivre. Des combats de boxe des Jeux Olympiques de Rio soupçonnés d'avoir été truqués. Tony Yoka et Estelle Mosley sont concernés. Tous les détails à la fin de ce journal. L'OM reçoit Galatasaray en Ligue Europa. Match sous haute tension au Vélodrome. Stéphane Burgat, on est à la mi-temps. Quel est le score?
Oui, zéro partout et effectivement une ambiance explosive au Vélodrome. Le jeu a dû être interrompu.
Merci Stéphane, on vous retrouve dans quelques minutes pour revenir sur ce match plus en détail. La météo, c'est la pluie qui arrive pour ce vendredi. On retrouvera Marlène Duret à la fin de ce journal. À suivre l'invité éco de 22h20, l'économiste Christophe Barrault, alors que la Chine fait face à une pénurie d'électricité. Et puis les unes de vos quotidiens. Les annonces de Jean Castex étaient donc très attendues ce soir devant l'explosion des tarifs de l'énergie. Pour protéger le pouvoir d'achat, le Premier ministre déploie un système de lissage de prix. Ça veut dire que les prix du gaz seront gelés à partir de demain et jusqu'au printemps prochain. Jean Castex.
Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Parce que malheureusement, que nous disent les experts, c'est que ça va continuer. Donc, nous allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées. J'ai ce pouvoir de par les textes. Et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler. Donc, évidemment, la chute sera plus lente puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après. Le tout, c'est que pour les consommateurs de gaz, il n'y ait pas cette hausse extrêmement forte qui est prévue.
Jean Castex, ce soir sur TF1. Maud Descamps, vous êtes la spécialiste des questions d'énergie à Europe 1. On vient d'entendre le Premier ministre annoncer un blocage des prix du gaz. Concrètement, Maud, comment ça va fonctionner ?
Eh bien, c'est très simple. À partir de demain, les tarifs réglementés du gaz n'augmenteront plus pendant plusieurs mois, le temps que les prix de marché redescendent. Il va bien y avoir la hausse de 12,6% qui était prévue, mais ce sera la dernière. Selon les projections, le prix du gaz devait augmenter d'encore 30% d'ici la fin de l'année. Alors attention, il ne s'agit pas d'un cadeau fait aux ménages, il y aura bien un rattrapage, mais seulement lorsque les prix du marché auront nettement baissé. Et ce rattrapage se fera très progressivement sur une période de 12 à 18 mois. Le Premier ministre a précisé que ce gel serait jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire jusqu'à l'élection présidentielle. Concernant l'électricité, là, le gouvernement joue sur la fiscalité avec le gel d'une taxe, la TICFE. Cela va permettre de limiter la hausse prévue en février prochain. Au lieu de voir les tarifs réglementés augmenter de 12%, eh bien la hausse ne sera que de 4%. Et enfin, sachez que si ces mesures de modération des prix ne suffisent pas, eh bien le chèque énergie distribué à 6 millions de personnes sera revalorisé.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Nicolas Sarkozy n'accepte pas sa condamnation à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. C'est la première fois que l'ancien chef de l'État est condamné en qualité de président de la République. Nicolas Sarkozy fait appel de cette condamnation et ce soir, il réagit avec véhémence sur les réseaux sociaux. Alexandre Chauveau, il dénonce une injustice.
Oui, message publié ce soir sur ses pages Facebook et Twitter, dans lequel il écrit que le droit a été bafoué, dit-il, raison pour laquelle il fait appel. Nicolas Sarkozy qui ne demande aucune faveur particulière, simplement que le droit soit appliqué pour lui comme pour n'importe quel autre justiciable. L'ancien président se dit déterminé à aller jusqu'au bout de son combat, proteste contre ce qu'il qualifie d'injustice donc, et s'insurge contre, je cite, de vaines tentatives d'humiliation. Nicolas Sarkozy remercie enfin ceux qui l'ont soutenu, nombreux dans sa famille politique, un soutien quelqu'un constant, fidèle et courageux qui lui donne la force de surmonter cette épreuve. Merci, 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 conclut-il après avoir donné rendez-vous à ses lecteurs pour une nouvelle séance de dédicace ce samedi à Neuilly, comme pour montrer qu'il n'est pas particulièrement déstabilisé par ce jugement en première instance.
Merci Alexandre Chauveau. C'est une situation inédite sous la Ve République. En moins d'un an, un ancien président condamné deux fois à des peines de prison. Cette fois donc, dans l'affaire Big Malion, Marion Dubreuil, vous avez eu accès aux motivations du tribunal correctionnel de Paris qui vient donc de condamner Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme.
Oui, pour la justice, Nicolas Sarkozy a volontairement omis de contrôler ses dépenses de campagne électorale. L'ex-chef de l'État connaissait le montant du plafond légal. Il ne s'agissait pas de sa première campagne. Il a été mis en garde par deux notes de comptable, a rappelé la présidente, sans en tenir compte. Résultat, 20 millions d'euros de dépassement. La juge a dénoncé une fraude d'une gravité sans précédent et a prononcé la peine maximale d'un an de prison ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy, injustifiée pour son avocat, Maître Thierry Herzog.
Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné.
Pour être précis, Nicolas Sarkozy a déjà été condamné en mars dernier à 3 ans de prison dans l'affaire des écoutes, mais il a fait appel, ce qui suspend cette condamnation. L'ancien président de la République n'était pas directement mis en cause dans le système frauduleux de double facturation de Big Malion, ce qui explique que les autres prévenus ont écopé de peines plus lourdes, jusqu'à 3 ans et demi de prison, par exemple pour son directeur de campagne Guillaume Lambert, condamné pour escroquerie et abus de confiance, et enfin 100 000 euros d'amende pour les 4 responsables de Big Malion, condamnés pour faux, usage de faux et escroquerie.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Le procès Benalla à l'heure des réquisitions. 18 mois de prison avec sursis ont été requis ce soir contre Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, jugé en particulier pour des violences sur des manifestants le 1er mai 2018 à Paris. Xavier Bertrand pose ses conditions pour aller au Congrès des Républicains, un congrès qui doit investir le 4 décembre prochain le candidat de la droite. Il ne veut ni d'un congrès d'affrontement, ni d'une primaire déguisée. Président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand invoque ce soir l'engagement qu'il avait pris devant ses électeurs aux dernières régionales.
Au moment des élections régionales, j'ai pris un engagement devant 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, 6 millions de Français, en leur disant « si je l'emporte, je serai candidat à l'élection présidentielle. Ils m'ont fait confiance en toute connaissance de cause. Je ne changerai pas de position, je ne me renierai pas. Ma conception de l'élection présidentielle, c'est un homme, une femme face aux Français qui présente son projet. On en a soupé des primaires. La primaire de 2016, qui a été source de division, qui ne nous a pas permis de l'emporter. Et les adhérents de LR, sous la conduite de Christian Jacob, la semaine dernière, ont dit non à une primaire. Ce que je propose, ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement. Rassemblement de ma famille politique, rassemblement des candidats à la primaire pour que nous puissions l'emporter. Parce que je pense que notre famille politique, elle sait que la victoire est à portée de la main, mais dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la France. Et c'est ce que je veux conduire.
Xavier Bertrand, ce soir sur France 2. Vive réaction d'Emmanuel Macron après les propos du Premier ministre malien qui a accusé ce mardi la France d'abandonner le Mali. C'est une honte, réagit ce soir le chef de l'État qui se dit choqué alors qu'un hommage national a été rendu hier au sergent Maxime Blasco, tué au combat au Mali. Ses propos sont inadmissibles, ils déshonorent ce qui n'est même pas un gouvernement issu de deux coups d'État, cingle Emmanuel Macron. Ce n'est pas vraiment l'entrée rêvée dans l'âge adulte, mais depuis aujourd'hui, les adolescents de 12 à 17 ans sont eux aussi soumis au pass sanitaire. Pour être précis, le pass est exigible à partir de l'âge de 12 ans et 2 mois pour laisser le temps aux plus jeunes de se vacciner complètement. Thibault a rencontré des ados à l'heure de leurs nouvelles obligations. Reportage.
Ce n'est pas une sortie des classes comme les autres. Certains jeunes ont déjà préparé leur QR code rangé dans leur téléphone. Anaïs, une collégienne, s'est précipitée au dernier moment dans un centre de vaccination, juste à temps pour avoir le pass sanitaire le jour J.
J'ai fait ma deuxième dose hier. C'est surtout à cause du fait que le pass sanitaire allait être obligatoire à partir du 30 septembre que je me suis fait vacciner. Surtout pour aller au restaurant, pour sortir, même pour voyager, tout ça, c'est très compliqué.
D'autres n'ont pas encore reçu la piqûre. C'est le cas d'Antoine, 13 ans. D'habitude, il va faire du sport en club après les cours, mais sans pass sanitaire, ce n'est plus. plus aussi simple.
Moi, je suis dans un club de foot et si me demande le pass sanitaire pour aller m'entraîner et faire mes matchs, bah, je pense que j'irai plus parce que j'ai pas envie de faire des tests toutes les semaines et j'ai pas envie de me faire vacciner.
71% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose, soit 3,2 millions d'adolescents.
La fin du port du masque à l'école pour les élèves de primaire lundi prochain dans 47 départements. Rendez-vous sur europe1.fr pour la liste complète de ces départements dans lesquels les élèves de primaire donc ne porteront plus le masque en classe. En revanche, les enseignants et personnels de primaire restent quant à eux soumis au port du masque à l'intérieur. Les cold cases sont un domaine où la réalité peut dépasser parfois la fiction. La brigade criminelle a peut-être retrouvé le grêlé, un tueur en série, 35 ans après une série de meurtres et de viols en France. C'est l'une des affaires criminelles les plus retentissantes des années 80. Le corps d'un homme suspecté d'être le grêlé a été retrouvé au Gros du Roi dans le Gard. Il s'agit d'un ancien gendarme qui s'est suicidé. Cet homme de 59 ans a laissé une lettre, Benjamin Péter, une lettre où il s'accuse d'être le tueur en série.
Oui, un mot dans lequel il reconnaît qu'il est bien celui qu'on appelait le grêlé, un surnom qu'il devait aux marques sur son visage, un tueur soupçonné du meurtre de 4 personnes entre 1986 et 1994 en région parisienne, dont celui de la jeune Cécile Bloch, âgée de 11 ans à l'époque et qui avait été retrouvée violée et tuée. Alors dans cette lettre, il précise par ailleurs qu'à l'époque des faits, il n'était pas bien dans sa vie selon ses propres termes et indique qu'il n'a plus rien fait depuis 1997. C'est dans le cadre d'une autre affaire, une longue enquête, que les enquêteurs ont fini par s'intéresser à cet ancien militaire de 59 ans et l'avaient convoqué pour un prélèvement ADN. L'homme avait alors quitté son domicile de la Grande Motte où il habitait depuis plusieurs années pour s'installer dans un logement Airbnb au Gros du Roi. Après avoir rédigé ses aveux, il a avalé des médicaments et c'est finalement grâce à la géolocalisation de son téléphone portable que les gendarmes sont remontés jusqu'à lui et qu'ils ont retrouvé son corps sans vie. Des analyses ADN sont en cours et devraient permettre de confirmer dans les prochaines heures s'il s'agit bien de ce tueur en série recherché depuis 35 ans.
Benjamin Péter.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est un match sous tension qui se joue ce soir au Stade Vélodrome en Ligue Europa. L'OM accueille Galatasaray, rencontre placée sous haute surveillance policière avec déjà des incidents entre supporters en première période. Stéphane Burgat, vous êtes en direct du Vélodrome, où en est-on ?
Eh bien écoutez, la seconde période de reprendre. Effectivement, il y a eu un beau combat sur le terrain avec la meilleure pour l'OM avec cette frappe de Sengiz Under, mais ce qu'on va retenir, hélas, eh bien, c'est cette interruption de part pendant 7 minutes en première période suite à des jets de fumigène et de pétards en direction des CRS qui sont placés en bas du parcage des supporters du Galatasaray. Long interlude. Il a fallu que le gardien et capitaine de Galatasaray vienne calmer un petit peu les esprits des supporters. L'ambiance est vraiment électrique. Le match a pu reprendre, mais c'est vrai qu'on suit ce match un œil sur la pelouse, un œil sur ce parcage adverse où eh bien, l'OM va essayer de faire la différence, hein, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a un enjeu sportif, à savoir la première place de ce groupe que se dispute justement ce soir l'Olympique de Marseille et le Galatasaray.
Merci Stéphane Burgat, en direct du Vélodrome avec cette ambiance un peu houleuse, en tout cas électrique, qu'on entend derrière vous, OM Galatasaray en Ligue Europa, ce soir au Vélodrome. Un parfum de changement d'époque pour l'équipe de France de foot. Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus la semaine prochaine pour les matchs de la phase finale de la Ligue des Nations. Le sélectionneur écarte Mandanda, 36 ans. Et Giroud, qui fête aujourd'hui ses 35 ans, Cyril de la Morinerie.
Oui, drôle de cadeau d'anniversaire pour l'attaquant qui fête en effet aujourd'hui ses 35 ans. Comme en septembre dernier, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'est pas retenu. Plus le temps passe, plus Olivier Giroud aura du mal à réaliser son rêve, à savoir égaler les 51 buts inscrits en bleu par Thierry Henry, car Didier Deschamps est en train de tourner la page.
Je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont là, qui étaient là au dernier rassemblement et qui ont donné satisfaction. Donc voilà, je reste sur cette position-là et ce choix-là aujourd'hui.
Quant au plus ancien de tous, Steve Mandanda, même punition. Le gardien de 36 ans, international français depuis 2008, qui a connu Nice-Na et la victoire en 2018, n'a pas été appelé. Mandanda, passé deuxième puis troisième gardien de l'équipe de France, paye son manque de temps de jeu à l'OM. Il est remplacé en bleu par le bordelais Benoît Costil. L'autre événement, c'est la présence de Lucas et Théo Hernandez. C'est la première fois depuis les frères Rovelli dans les années 70 qu'une fratrie se retrouve avec le maillot bleu. Pour le reste, retour de Mbappé, Pavard et Upamecano. Enfin, N'Golo Kanté, testé positif au Covid-19 et Kingsley Coman, concerné par une légère opération au cœur, manque à l'appel.
Merci Cyril. C'est une bombe dans le monde de la boxe. Des combats au JO de Rio sont soupçonnés d'avoir été truqués. Première conclusion d'une enquête indépendante. Des arbitres auraient été corrompus. Or, sur les 6 médaillés français en boxe, 5 sont cités dans ce rapport et parmi eux, Jean-François Pérez, le couple en or de la boxe tricolore, Estelle Mosley et Tony Yoka.
Oui, même si ce rapport n'est qu'intermédiaire, il jette une lumière crue sur les mœurs sulfureuses de la boxe amateur. Son auteur, le Canadien Richard McLaren, n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a notamment dénoncé le dopage d'État en Russie. Et ce qu'il affirme tout au long des 150 pages est troublant. 11 combats au moins lors des Jeux de Rio seraient suspects. Parmi eux, les finales des futurs champions olympiques français, Estelle Mosley et Tony Yoka. McLaren met au jour un système de corruption puissant dans lequel on trouve le français Karim Bouzidi, ancien directeur exécutif de la Fédération internationale de boxe amateur, la FIBA, remercié 3 jours avant la fin des Jeux de Rio. Il aurait lui-même nommé des arbitres et des juges amis pendant la compétition, ceux-ci étant chargés de manipuler le résultat sans que les sportifs eux-mêmes en soient informés. Contacté par Europe 1, la Fédération française de boxe n'a pas souhaité réagir. Quant au Comité international olympique, il se prononcera une fois les nouvelles étapes du rapport publiées dans quelques semaines, mais il n'exclut pas totalement de déchoir de leurs médailles certains boxeurs favorisés. La team solide, comme les Français se surnommaient, l'est un peu moins désormais.
Merci Jean-François. Écoutons justement la réaction de Maître Arnaud Péricard, l'avocat de Tony Yoka. Il estime que son client est avant tout victime d'un système.
C'est une analyse, moi j'ai lu le rapport, qui est assez fine et assez objective hein, sur un système de notation. Mais c'est avant tout à cette fédération sportive internationale de se saisir de ce sujet et d'envisager des sanctions si jamais il est avéré que ces juges ont manqué à des règlements ou à des règles. Et les investigations sur ce système de notation, elles ne concernent pas les athlètes. Eux, ils sont plutôt victimes de ce système. Mais en plus, il y a un risque de réputation si jamais on viendrait à douter quelque part du titre de la médaille olympique. Je dis simplement que dans les sports à notation, il y a toujours, après chaque compétition, une part de polémique. Et là, c'est un rapport qui détaille des méthodes de notation. Écoutez, si la Fédération internationale veut s'en saisir pour faire améliorer les choses, je pense que ça va plutôt dans le bon sens.
Arnaud Péricard, avocat du boxeur Tony Yoka avec Axel May. Le week-end approche, voyons le temps pour ce vendredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo, Marlène Duret, ce ne sera pas les Seychelles pour ce week-end, c'est plutôt de la pluie qui arrive.
Oui, on va commencer déjà par demain. La pluie qui est déjà arrivée par les côtes de la Manche et elles vont traverser donc les régions du quart nord-ouest demain pour gagner en journée tous les Hauts-de-France, l'Île-de-France bien sûr, la Touraine, le Poitou et même la Gironde, alors que des éclaircies vont revenir sur la pointe du Cotentin, le Finistère, les côtes d'Armor. Ailleurs, on va se réveiller sous le soleil si on nommait les petites plaques de grisaille dans les vallées. Mais évidemment, à l'approche de la perturbation, le ciel va commencer à se voiler et finalement il n'y a vraiment que les départements proches des frontières de l'Est, la Provence et la basse vallée du Rhône qui resteront à l'écart. Du côté des températures, ça ne bouge pas trop demain, on va dire entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord jusqu'à 22 en plaine d'Alsace avec 16 degrés seulement à Paris et puis dans le sud comptez 20 à 25 avec des pointes à 26 ou 27 en Corse et en Provence.
Merci Marlène, rendez-vous à minuit pour un dernier point météo avec vous. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre Top à Wall Street avec Didier Hameau, l'invité éco. Dans quelques instants, ce sera l'économiste Christophe Barrault, alors que la Chine fait face à une pénurie d'électricité. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hameau. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street sur ses gardes hein, face à la flambée des prix des matières premières.
Oui, la prudence reste de mise avec ces craintes inflationnistes qui hantent le marché. On a une baisse du Dow Jones assez nette ce soir, moins 1,59%, 33 844 points. C'est moins net en revanche sur le Nasdaq, moins 0,44%, une petite baisse, 14 448 points. Les grandes valeurs de technologie reculent, mais limitent la casse quand même. Microsoft, moins 0,7%, Amazon, moins 0,5%, Intel, moins 0,4%, Apple, moins 0,9% à $141,50. Le pétrole remonte, il remonte de 0,5% et donc on retrouve les $75 le baril WTI, c'est ce qui inquiète aussi les marchés. Donc les cours du pétrole toujours très tendus. D'ailleurs, tout le secteur aérien rechute ce soir. On a Boeing -2,4%, Delta -1,7% et American Airlines -2,3%. L'euro est toujours faible, sous les 1,16 face au dollar.
La bourse de Paris n'a pas confirmé son rebond d'hier avec un indice CAC 40 en légère baisse ce soir.
Ça retombe de 0,6%, 6 520 points. Toujours un œil inquiet sur les indices d'inflation là aussi. Et donc le secteur aérien qui rechute, le tourisme en général, Air France -7,5%, ADP -3,5%, Accor -3%, Airbus repère 1,8%. Et puis Carrefour a reperdu aussi 2,6%, 15,54€, alors que le distributeur continue d'étudier certaines pistes de rapprochement avec d'autres groupes concurrents.
Exception du jour, le titre Telsat qui s'envole de 15%.
11,90€, oui, 15% de hausse, c'est beaucoup. Alors que le patron d'Altice SFR, Patrick Drahi, a offert 12,10€ pour racheter Telsat. Une offre jugée insuffisante par la direction du groupe. L'État, qui détient 27% du capital de Telsat, n'aurait pas mis son veto à l'opération. La valeur du groupe Telsat est actuellement de 2,7 milliards d'euros. Donc à suivre de près pour les prochaines semaines. Les autres places financières sont en baisse. Globalement, ça baisse partout. Le DAX, -0,7%, Madrid, -0,9%, Milan, -0,2%, et le CAC 40, donc -0,62%, 6 520 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com. On vous parle ce soir sur Europe 1 des tarifs de l'énergie et des annonces de Jean Castex pour absorber cette flambée des prix. Le Premier ministre qui a annoncé un lissage des prix, un blocage des prix du gaz jusqu'au printemps prochain. L'invité éco ce soir, Christophe Barrault, chef économiste chez Market Securities, alors que la Chine, elle, manque tout simplement d'énergie, d'électricité. Christophe Barrault répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Christophe Barrault.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chef économiste chez Market Securities et on vous présente traditionnellement comme l'un des meilleurs économistes français puisque vous avez été souvent classé par Bloomberg, l'un des plus grands noms dans le monde de la finance, comme l'un de nos meilleurs économistes en matière de prévision, que ce soit pour les États-Unis, pour l'Europe et pour la Chine. Et justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de Chine, parce que moi j'ai été impressionné par une donnée économique que vous avez publiée ce matin, qui dit que pour la première fois depuis la sortie de crise, d'une certaine manière, du Covid en Chine, l'industrie s'est contractée. Ça veut dire que ça va moins bien en ce moment pour l'industrie en Chine, et ça s'explique là-bas aussi. Et c'est marrant, c'est un corollaire avec ce qu'a pu annoncer tout à l'heure Jean Castex aux 20h de TF1, parce que là-bas aussi, c'est à cause de la cherté des prix de l'énergie, mais aussi à cause d'un manque d'énergie, et peut-être même beaucoup plus à cause d'un manque d'énergie.
Complètement. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques en Chine liées à l'énergie. La première, c'était tout d'abord d'essayer de converger vers des objectifs environnementaux, et donc c'est une politique en fait de restriction sur l'énergie, de restriction sur certaines activités polluantes, comme par exemple la production d'acier ou la production de charbon. Et il y a une problématique concomitante qui est celle d'un niveau relativement faible de stock de charbon, qui est l'énergie encore aujourd'hui la plus utilisée en Chine. Donc les autorités chinoises ont décidé d'appliquer un certain nombre de restrictions. Donc on a un peu plus de la moitié des provinces chinoises qui en ont ressenti les effets sur la fin septembre. Et la conséquence directe, c'est qu'on a eu un ralentissement donc de l'activité manufacturière en Chine pour la première fois depuis la pandémie.
Alors on pourrait se dire tout ça c'est loin, mais c'est pour cela que ça monte aussi autant chez nous. Puisque par exemple le gaz, si ça augmente autant, c'est parce que les Chinois achètent une bonne partie des capacités au niveau mondial.
Alors il y a effectivement un phénomène de substitution parce que donc ils ont une problématique aujourd'hui d'offres, donc toute la partie peut-être charbon, gaz naturel, et ils sont contraints d'importer puisque leur but, c'est pas forcément de la produire eux-mêmes parce que ça entraînerait potentiellement de la pollution. Donc ils sont aujourd'hui de plus en plus importateurs de gaz naturel, ils sont prêts à payer le prix et c'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de cargos qui s'orientent vers la Chine et des prix qui s'envolent en Europe.
Est-ce que du coup, ça pourrait bloquer quand même leur croissance, puisqu'on avait l'impression que le pays était plutôt bien reparti, même si de façon très régulière, en raison de cette politique du Covid zéro, ils fermaient des provinces, des ports. Il y a eu un gros problème il y a quelques mois sur un des plus gros ports chinois. Est-ce que là, ça va freiner leur croissance ?
Alors, on est clairement dans cette dynamique-là. Il faut savoir qu'au troisième trimestre, on attend un chiffre relativement faible, qui soit, je pense, le plus faible. Pareil depuis la pandémie. Alors ça s'explique par ces problématiques sur l'énergie, mais ça c'est plutôt la fin du troisième trimestre et ce sera vraiment d'actualité pour le quatrième trimestre. Vous avez ensuite tout un tas de choses, comme par exemple ce qui a trait au marché immobilier résidentiel, A et Vergrande B, et il y a aussi ces confinements localisés suite à quelques foyers de Covid qu'on a pu voir fin juillet, août et septembre.
Christophe Barrault, vous venez parler d'un dossier très important, Evergrande, dont on a parlé, y compris sur l'antenne d'Europe 1 ces dernières semaines. C'est quoi ? C'est l'un des plus gros promoteurs immobiliers au monde, c'est le deuxième, je crois, promoteur chinois, qui n'arrive pas tout simplement à rembourser tous ses emprunts, puisque notamment le pouvoir chinois avait décidé de serrer un petit peu la vis dans l'argent accordé à l'immobilier. Est-ce que ça, c'est vraiment inquiétant pour nous en Europe ?
Alors, Evergrande, je pense que c'est un point particulier, clairement identifié. C'est pas vraiment récent parce qu'on en parlait déjà il y a, on va dire, 2-3 ans.
Non, mais nous, le grand public, pour être très honnête, on a découvert ça quand ils n'ont pas réussi à payer à la date tout ce qu'ils devaient au niveau de leurs emprunts.
Exactement. Après, ça a été clairement identifié par les investisseurs. C'était une entreprise qui était classée comme étant très à risque. Et donc, même s'il y a un défaut, il y avait quand même, je dirais, la perception d'une entreprise risquée. Donc, pas forcément de grosses surprises là-dessus. Maintenant, l'enjeu, il est plutôt sur l'ensemble du marché immobilier parce que la situation propre à Evergrande est une conséquence macroéconomique. Il faut savoir que les autorités chinoises avaient appliqué beaucoup de mesures de restriction sur le secteur. Et couplé à des confinements localisés, vous avez eu une chute du nombre de transactions, un ralentissement de la croissance des prix, et c'est ça qui a précipité Evergrande. Donc cette situation, elle n'est pas que propre à Evergrande, c'est l'ensemble du marché immobilier résidentiel chinois, et c'est là où est le risque.
Donc un risque important qui pourrait, de ce qu'on entend, quand même avoir des répercussions. Malgré tout, de ce que l'on dit depuis le début de cette interview, c'est qu'une partie du prix du gaz que l'on paye ici, en plus en France, vient de cette demande très forte du côté de la Chine, liée à une reprise extrêmement forte. Mais là, vous dites que ça se ralentit un petit peu. Est-ce qu'on peut imaginer un retour à la normale à un moment où... Parce qu'on a l'impression que tous les économistes repoussent le retour à la normale.
Alors, le retour à la normale sur les prix du gaz, il y a tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et le paramètre clé, c'est les conditions climatiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi le prix du gaz monte aussi, c'est qu'il y a une anticipation d'avoir un hiver extrêmement rigoureux. Et vous avez donc un petit peu, je dirais, des stocks de précautions, entre guillemets, qui sont... Si on a une bonne surprise de ce côté-là, on pourrait avoir une normalisation. Après, il y a aussi tout un tas de...
Mais plus largement, sur toutes les matières premières, parce que tout est bloqué en ce moment. On a presque l'impression de dire qu'on est face à un mur historique d'une certaine manière. Quand est-ce que ça va rentrer dans l'ordre ?
On peut estimer que ça rentre dans l'ordre, on va dire, à partir de la deuxième partie de l'année prochaine. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la situation de l'année dernière, avec énormément d'industriels qui ont réduit leur stock au minimum, qui ont mis en pause ou réduit leur capacité de production, sauf que les mesures gouvernementales ont permis de soutenir la demande. Et aujourd'hui, vous avez une demande qui est nettement au-dessus des niveaux pré-Covid, alors que l'offre est encore en dessous.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Christophe Barrault, chef économiste chez Market Securities et l'un des meilleurs économistes au monde. Et c'est pour ça que nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1. Nous, on se dit à lundi. Très bon week-end à vous tous.
Merci à vous, Emmanuel. On vous retrouve demain à 13h avec Elisabeth Assayag, également dans La France Bouge. Vous recevrez le patron de Bouygues Télécom avec cette question. Où en est-on du déploiement de la fibre et de la 5G en France ?
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec un coup d'œil à la une de vos quotidiens pour ce vendredi matin, c'est d'abord un clin d'œil grinçant à la une de Libé. Sarkozy, quelle indignité, pour reprendre une célèbre réplique de Nicolas Sarkozy, réplique ici détournée. Pour la deuxième fois en 7 mois, l'ancien président condamné à de la prison ferme, cette fois pour financement illégal de sa campagne de 2012. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait faire appel. La colère des Parisiens confrontés à l'enfer du crack, c'est la une du Figaro. Déplacés d'un lieu à l'autre de la capitale, les fumeurs de crack apportent avec eux peur, violence et misère. L'exaspération monte face à l'impuissance des politiques. La réforme de l'assurance chômage est-elle une réforme injuste ? S'interroge Lacroix. Cette réforme entre en vigueur ce vendredi 1er octobre. Et puis octobre, c'est aussi octobre rose. À la une de 20 minutes, des lectrices du journal reviennent sur leur reconstruction mammaire à l'occasion d'octobre rose, donc cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Petit détour à 22h30 sur Europe 1 par le Vélodrome. OM Galatasaray en Ligue Europa. Stéphane Burgat, on est en deuxième période. Beaucoup de tension toujours.
Alors, sur le terrain, surtout, ça s'est calmé en tribune. Hein. Je pense que les supporters de Galatasaray ont usé tout leur arsenal en première période de fumigène. Zéro partout, mais deux occasions énormes pour les Marseillais. Bamba Dieng et puis surtout William Saliba qui a trouvé la transversale de la tête. Les Marseillais qui jettent toute leur force, une vingtaine de minutes à jouer. Ils ont fait rentrer leur attaque en vedette. Le retour d'Arkadiusz Milik qui a été salué par le Vélodrome et les Marseillais et qui seraient bien inspirés d'ouvrir le score puisque dans l'autre match de ce groupe, la Lazio mène au score 2-0 face au Lokomotiv Moscou.
Voilà, merci Stéphane Burgat, 0-0 toujours OM Galatasaray en direct du Vélodrome. 22h32, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver tout de suite la Libre Antenne avec Olivier Delacroix.
Merci mon cher Alexandre, et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité, pour votre flash à 23h. À tout à l'heure.